Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Cette nuit, j'ai collé mon oreille au mur.
Mon père a pris rendez-vous pour se faire appareiller, car il est fatigué de ne pas comprendre dans ses réunions ces gens qui n'articulent pas.
Je n'ai jamais osé communiquer.
Eh bien oui, on va communiquer ce soir dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question de Movida, de prison, de radio, d'audition et même de magie mentale. Avec Rossy De Palma, elle revient du Festival de Cannes et est à l'affiche de Graziella, un premier rôle dramatique pour une actrice découverte en animatrice de télévision dans le cinéma de Pedro Almodovar, Émilie Chaudet.
Presque une cinquantaine de rôles rien qu'au cinéma et au moins cinq vies en dehors. Retour sur le parcours d'une actrice, chanteuse, modèle, peintre, danseuse dont le nom s'est imposé au fil de son œuvre comme un synonyme à part entière de Movida.
19h30, plateau seul en scène avec Isabelle Fruchard qui signe et joue Journal de ma nouvelle oreille, une pièce autobiographique pour une actrice qui redécouvre sa voix et le son des autres à l'âge de 37 ans. Benoît Lagane.
L'occasion de revenir sur le parcours d'une comédienne passée notamment par les spectacles de cabaret, la rue et même le cirque, ou comment les voix de la radio sont venues redonner du son et du sens à une artiste spécialiste de la magie mentale.
On y reviendra, mais qu'est-ce que c'est que la magie mentale? Sans oublier la session live du mardi, Pop Rock Français ce soir avec Fyodor Dream Dog, Elsa Béranger.
Fyodor Dream Dog pour un titre en direct, extrait de son dernier album Best, au programme voix envoûtante et pop cosmique.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfès, bien sûr, que l'on ouvre avec le son du jour.
Ces enjeux, il ne faut pas nous en cacher, sont considérables, car la presse doit relever aujourd'hui d'immenses défis si elle veut sauver son avenir. Ces défis sont de deux ordres, et vous les connaissez. Il s'agit d'abord d'un défi démocratique, à travers la défiance sans cesse accrue de nos concitoyens à l'égard des médias et des journalistes. Il s'agit aussi d'un défi économique et social, à travers le bouleversement inédit que traverse le secteur et les métiers de la presse, de par la révolution numérique. Beaucoup parlent de crise de la presse. Je préfère, pour ma part, parler de défi, car nous ne devons céder à la sinistrose et au fatalisme.
Eh bien, bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
Il date de décembre dernier, vous entendiez Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, lors du vote de la loi sur la modernisation du secteur de la presse. Elle avait commandé à ce moment-là un rapport sur la presse et le numérique au sociologue des médias Jean-Marie Charon, qui lui a été remis aujourd'hui. Et elle vient d'annoncer plusieurs mesures significatives pour réorienter les nombreuses aides de l'État à la presse. Elle entend donc supprimer les aides postales de l'État à la presse de loisirs et de divertissement, donc essentiellement la presse people, mais la conserver à la presse dite de connaissance et de savoir. Cette réorientation des aides doit permettre l'ouverture de l'accès aux fonds stratégiques pour le développement de la presse à des acteurs plus nombreux qu'aujourd'hui et surtout à la mise en place d'un fonds d'aide à la création de médias. Il aura pour mission d'accompagner tous les nouveaux médias qui se créent au cours de leurs trois premières années d'existence dans un écosystème économique fragile. Et par ailleurs, elle envisage aussi d'étendre les aides directes de l'État aux hebdomadaires, mensuels et trimestriels d'informations politiques et générales, comme par exemple Le Monde Diplomatique ou Charlie Hebdo, qui aujourd'hui n'en bénéficie toujours pas.
Eh bien, tout de suite, on passe au dossier du jour. C'est aujourd'hui le deuxième volet de votre dossier hein, qui a commencé hier sur la lutte contre le pillage et le trafic illicite d'œuvres d'art en Irak et en Syrie. Hier soir, le Conseil international des musées, l'ICOM, a dévoilé une nouvelle liste rouge des biens culturels irakiens en péril. Une liste qui permet d'identifier les objets pillés pour les intercepter, mais ce travail de recueil de données va de pair avec un travail d'enquête sur les méthodes des trafiquants dans ces deux pays en conflit.
Tout à fait. Alors hier, l'ICOM, en plus d'annoncer cette liste rouge, a organisé plusieurs dizaines de réunions avec des centaines de personnes à l'UNESCO, avec justement les principaux acteurs de la lutte contre le trafic de biens illicites dans ces pays. Parmi eux, il y avait Michael Dancy. Il est archéologue et chercheur à l'université de Boston et il dirige aujourd'hui, c'est un vrai travail, un programme de surveillance du pillage en Irak et en Syrie pour le département d'État américain. Il produit chaque semaine des rapports extrêmement précis sur les destructions et les pillages. Et je lui ai demandé quelles étaient ses sources.
L'une de nos sources principales, ce sont les images satellites de haute résolution qui nous permettent de visualiser les sites archéologiques, de constater de nouvelles fouilles à l'image, mais aussi de repérer des convois qui passent les frontières. On s'appuie aussi sur les nombreux témoignages de Syriens et d'Irakiens. On travaille avec des journalistes d'investigation et des ONG présents sur place. On a aussi mis au point un système de formulaire court qui permet à des anonymes de nous envoyer des messages depuis leur smartphone. Enfin, on se sert de toutes les informations que l'on trouve sur Internet, notamment sur les forums de discussion de l'État islamique, où circulent beaucoup d'informations sur les pillages.
Et grâce aux données recueillies, il peut confirmer que le phénomène du pillage a pris une ampleur sans précédent dans les zones occupées par l'État islamique.
Oui, en fait, au fur et à mesure que le groupe a progressé en Irak et en Syrie, les activités de pillage ont largement augmenté. Ça se voit à l'image, on peut voir que certains sites sont devenus de véritables passoires. La destruction du patrimoine pré-islamique fait partie de l'idéologie du groupe, mais Daesh n'est pas le seul groupe à l'œuvre, écoutez-le.
Il n'y a pas que l'État islamique qui est impliqué. Des groupes islamistes comme le Front al-Nusra, le Front islamique, eux aussi, pillent. Globalement, tous les belligérants du conflit syrien pillent ou sont complices du pillage. Les méthodes ne sont pas les mêmes partout, mais en gros, ces groupes donnent des licences aux pillards et prélèvent des taxes sur le butin. En réalité, il existe une jurisprudence islamique qui date du 7e siècle, qui traite du trafic d'antiquités en cas de conflit, et l'État islamique s'appuie dessus pour justifier ses actes. Même si, évidemment, cette jurisprudence n'a plus cours depuis des siècles.
Et grâce à ce système de licences et de taxes mis en place par Daesh, eh bien les trafiquants ont les mains libres.
Oui, et eux, ce sont des commerçants parfaitement rodés au trafic illicite. On l'a dit hier, la Bulgarie, la Turquie sont les pays qui voient se transférer les œuvres d'art. La liste rouge publiée hier doit permettre donc aux douaniers en Irak, mais aussi en Bulgarie, en Syrie, d'identifier les œuvres pillées. Et la tâche n'est pas aisée, car les trafiquants ont pris l'habitude de produire aussi beaucoup de faux pour brouiller les pistes, comme l'explique la présidente de l'ICOM.
Ces trafiquants, appelons-les comme ils sont, ne mettent pas tout de suite les originaux sur le marché. Ils attendent que l'original prenne un peu de valeur et ils en produisent des faux. Et donc il y a une forme de nuage, de fumée qui est en train de se créer et nous savons pertinemment que dans les prochains mois, prochaines années, ce sont des faux qui vont inonder littéralement le marché et que les vrais objets qui ont une extrême grande valeur viendront un peu plus tard. Donc les spécialistes évidemment ont pour intérêt d'une part de travailler en étroite collaboration avec les experts des musées pour identifier les originaux et tout de suite les récupérer, parfois même d'ailleurs les mettre en protection et en sécurité dans les musées, et d'autre part de former les douaniers, les contrôleurs aux frontières, de faire une forme de différence entre un faux, qui sont parfois des faux d'ailleurs très grossiers, et un original.
Anne-Marie Augustin, la présidente de l'ICOM. Alors voilà, en dehors de la liste rouge présentée hier, Michael Dancy et ses collègues archéologues défendent de plus en plus l'idée de mettre en place une plateforme internet proche du système de Wikipédia pour recenser toutes les données liées au trafic d'œuvres d'art, antiquités ou pas, dans toutes les zones de conflit comme le Mali, le Sinaï, même l'Ukraine où le pillage est aussi à l'œuvre. Car à l'heure où les conflits sont de plus en plus globalisés, le trafic d'œuvres d'art générerait presque autant d'argent que le trafic de drogue ou le trafic d'armes.
Merci Zoé pour ce dossier en deux temps feuilletonnant. On passe au bref.
Et l'on ouvre avec le prix Franz Kafka 2015 qui a été attribué par un jury international à Eduardo Mendoza, l'un des écrivains espagnols contemporains les plus reconnus, les plus traduits selon la société qui lui a remis le prix, qui salue son portrait saisissant de la Catalogne, sa région natale. Doté de 10 000 dollars, le prix sera remis à l'écrivain au cours d'une cérémonie organisée à la mairie de Prague à l'occasion de la fête nationale de la République tchèque.
Le prix Goncourt de la biographie va à Jean-Christophe Athias.
Pour son livre Moïse fragile, paru aux éditions de l'Alma, un essai dans lequel il tente d'analyser la figure de Moïse à travers quelques épisodes choisis de sa vie qui révèlent les failles du héros biblique, son bégaiement notamment. Il émet même l'hypothèse dans ce livre que Moïse ait pu être une femme.
France Télévisions lance son application Zoom.
Disponible dès aujourd'hui, cette application se présente comme une chaîne personnalisée où en fait on peut consulter sur son portable plusieurs extraits d'émissions du groupe France Télévisions qui sont automatiquement proposés par un algorithme. Zoom entend être une véritable alternative à YouTube. La cible, les 13-34 ans.
Ah ben c'est pour nous.
Bah oui, c'est pour nous, puisque vous êtes tout à fait dedans, Laurent Goumard. Moi
tout à
aussi,
fait.
Je n'ai
plus
que 12
proche
ans.
Proche des 13 ans, oui, c'est ça. Vous, vous êtes exempté.
Il y a
la dernière,
et
oui.
La dernière, c'est une histoire sympathique de star d'immortalité par le Lego. Et oui, car la marque suédoise, que vous connaissez peut-être, a lancé Lego Ideas il y a 3 ans, qui entend suivre les envies des clients, c'est-à-dire que vous pouvez proposer des sites de nouvelles figurines de Lego à créer. Alors parmi les projets, il y a des reproductions de monuments célèbres, la Tour Eiffel, etc.
Ouais, mais ça, on s'en fout.
Des personnages de films, c'est quand même la culture parfois. et très peu en fait de stars vivantes.
Beyoncé en Lego, ils le font pas.
Et ben alors justement, Beyoncé, il y a pas eu la proposition, mais il y a eu une proposition extrêmement forte pour Daft Punk. Et oui, les deux,
facile.
Les deux.
C'est voilà, facile, c'est des
pourquoi
casques.
Parce que justement, ils ont les casques. Et donc, il y a eu 10 000 signatures. Les deux membres de Daft Punk, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, incroyable leur nom à chaque fois, ont relayé l'information sur le site Facebook. Ils ont même proposé eux-mêmes des dessins de mini figurines avec leurs instruments de musique, c'est-à-dire des cinquanceurs, des platines ou encore des guitares. Voilà, il aura fallu 2 ans pour recueillir les 10 000 suffrages nécessaires à tout cela. Et figurez-vous que Lego n'a pas l'air complètement convaincu puisque ça fait 2 mois qu'ils tergiversent un peu et ne rendent pas leur décision. Ils devraient se prononcer demain.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Rossi De Palma et Isabelle Fouchard? Rossi De Palma, il y a quelque chose que vous voudriez commenter?
Oh.
Pas obligé.
Non, les Lego, ça ne me paraît pas très important. L'autre...
Trop.
Trop. Mais je ne comprends pas tout ça, mais c'est mieux pas approfondir. Tout ça, des œuvres d'art et tout ça, les pillages, parce que finalement, c'est lui qui l'achète, ou si ce n'est pas quelqu'un de bien. Alors, on ne sait pas comment ils vont arriver à les bonnes mains. Et voilà, mais tout ça, c'est très compliqué. C'est bien dommage et ça fait peur.
Isabelle Fruchard, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez commenter?
Non, rien à ajouter. C'est vrai, on se demande qui achète tout ça.
Des collectionneurs.
Voilà, au bout
pas
de...
ça, quelques institutions, peut-être, quelquefois.
Voilà, au bout d'un moment, la boucle se boucle et ça fait une ronde, quoi. C'est pas, ça nous revient, quoi. C'est très proche, en fait. Voilà.
Le rendez-vous. Cette nuit, j'ai collé mon oreille au mur et j'ai compté vos pas. 1, 2, 3.
Plateau actrice avec vous, Rossi De Palma, comédienne, chanteuse, modèle, repérée dans le cinéma de Pedro Almodovar. Vous serez demain à l'affiche de Graziella, le nouveau film de Mehdi Chareff. Graziella, c'est vous, une femme qui termine sa peine de prison et qui va faire le ménage chaque jour dans un pensionnat vide pendant les vacances scolaires. Et là, elle rencontre Antoine, interprété par Denis Lavant, un projectionniste taciturne, silencieux, qui lui aussi arrive au bout de sa peine de prison. Mais l'histoire le rattrape. Il est menacé par un groupe de mafieux, tandis que Graziella tente, elle, de se réinsérer. Bande-annonce recentrée autour de votre personnage par l'intermédiaire de notre réalisateur Thomas Bou.
Cette nuit, j'ai collé mon oreille au mur et j'ai compté vos pas. 176. 1, 2, 3, 4, 5. Les murs de la cellule. Est-ce qu'il y a encore l'air d'être une femme?
Vous êtes un Picasso.
C'est bien.
C'est beau.
Il t'a parlé? Fais gaffe à lui. Il te ressemble.
Ils vous ont pas trouvé.
Qui?
Comment qui?
C'est eux.
T'as pris l'autoroute à l'envers? Mets-toi sur le côté! Stop tout!
6, 7, 8, 9, 10. La porte de la cellule.
J'ai une chambre. Et un boulot pour toi, sans borne.
Et lui?
Tu veux quoi?
Une arme.
Depuis que je sais que c'est vous, je me sens moins seule. Je n'ai jamais osé communiquer, taper sur le mur. Quand vous m'entendiez parler, rire, vous m'imaginez comment?
Rossi De Palma, ce que l'on entend là, dans cette bande-annonce reconstruite par notre réalisateur, c'est un phrasé dans le texte très particulier de la part de Mehdi Chareff. Comment il vous a dirigé pour avoir un phrasé comme les autres acteurs? En effet, il y a presque un rythme. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2.
Je ne sais pas si c'était prémédité. On a travaillé très simplement. Et la rythmique, maintenant, vous me faites attention à cette rythmique de la phrasée. Moi, je crois que c'est la phrase naturelle de Graziella, finalement. Parce que c'est elle qui, ni m'a dit, ni moi, c'est elle qui a fait cette rythme et elle a parlé comme ça. Même, je crois que Denis Lavant et l'autre voix qu'on écoutait, c'est la voix de Claire Nebout.
Claire Nebout, oui.
Qui aussi, elle est dans les films, elle joue un autre personnage un peu paumé aussi. Je crois que c'est des gens qui, finalement, comme ils ne sont pas tellement de temps en prison, ils n'arrivent pas à se remettre dans la vie courante. Je crois qu'ils sont pas pressés à parler. Je crois qu'ils ont ce rythme, comme ça, un peu, ces cadences, non?
Isabelle Fréchard, je vous voyais en train de fermer les yeux pour écouter la bande-annonce.
Oui.
Pour quelle raison vous faites ça?
Ah, bah parce que là, c'est super confortable avec le casque sur les oreilles. On entend super bien et donc c'est comme un bain de son. C'est très, très agréable.
Je trouve que le son, finalement, il a un pouvoir plus fort que l'image.
Mais il faut quand même aller voir le film.
Oui, quand même.
Quand même.
Non, mais je ne dis pas dans les films. Concrètement, ce qu'on vient d'entendre, bien sûr, il faut aller les voir parce que c'est une aventure visuelle aussi. Mais je veux dire que même les sons, dans partout, ils ne se laissent pas apprivoiser à l'image. On peut la faire, on fait tout ce qu'on veut avec l'image. Mais les sons, même aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, on continue à avoir les mêmes microphones avec les mêmes... Ils ne se laissent pas, il y a quelque chose de mystérieux. Et comme elle s'est fermée les yeux, c'est pour ça qu'elle a dit, c'est vrai qu'on peut partir très loin.
Et vous savez de quoi vous parlez, parce que, puisque vous êtes si proche du son, au départ, vous étiez chanteuse dans un groupe... pop,
oui,
rock, peur, ouais. Impossible.
Pire impossible.
Le pire impossible. Si. Quel était le répertoire que vous faisiez à cette
époque-là? On faisait de la pop. On a commencé comme une aventure créative. On était très théâtral aussi. Chaque concert, on avait un thème, l'africain. On s'est déguisé. On était très théâtral. Et on s'est appelé comme ça les pires impossibles parce qu'on n'avait pas de connaissances musicales. Alors on a dit, on prévient les gens qu'on est le pire. Comme ça, après, ils ne veulent pas nous demander de les rendre l'argent de l'entrée.
Ils étaient prévenus.
Ah ouais. Mais on a eu un parcours incroyable en Espagne.
Ouais.
On a même été en Italie. Et aussi Angoulême, première fois en France, c'était Angoulême, au salon de la bande dessinée qu'on a joué là. Et on a eu même, on a eu une tube de l'été.
C'était quoi?
C'était Susurrando, une chanson qui était la chanson de cet été en Espagne. On fait partie de tous les compiles de l'âge d'or des années 80. Oui, oui. On est tout le monde qui...
Ça donnait quoi?
Tout le monde qui a survécu les années 80.
Oh, il y en a quand même pas mal.
En Espagne, ils nous connaissent.
Ils savent Baccarat et ça.
Voilà. Baccarat, ça devient un fétiche, Baccarat.
Oui, c'était quelque chose.
Puisque oui, il continue à composer la musique et tout. Ça continue en moi, ça.
Retour au film. Comment Mehdi Charret vous a présenté ce rôle qu'il semble avoir écrit pour vous? Parce qu'on l'entend dans la bande-annonce, à un moment donné, Denis Lavant vous identifie à un Picasso. Vous dites, c'est bien. Il répond, c'est beau. C'est une comparaison qui vous suit depuis des années, on le sait.
Ah oui, quel travail interprétatif que j'ai fait, voilà. Et de faire comme si je ne connaissais pas. Hein.
Ça, c'est un talent d'actrice.
C'est incroyable. Ouais, incroyable.
Est-ce que ce rôle a été véritablement écrit pour vous?
Il y a une très belle anecdote, parce que moi, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous savez un âge, je ne sais pas, s'ils sont plus jeunes, mais bref. J'ai vu, il y a 25 ans, par là, j'ai vu le Théorème d'Archimède.
D'Archimède, bien sûr. Oui.
Et j'ai adoré ce film, Et alors, c'est la première fois de ma vie, l'unique fois que j'ai écrit une lettre en metteur en scène. Dans ce cas-là, Mehdi Charret, en le déclarant ma flamme artistique, en le disant. Écoutez, moi, j'ai adoré ce film, parce que c'était un film qui était... J'aime beaucoup le cinéma vérité. Et il y avait ce côté rossellinien ou même pasolinien dans le personnage. J'ai beaucoup aimé. Il a écrit cette lettre, il n'a jamais répondu. Je lui ai dit, si un jour vous avez besoin de moi, je serais flatté. Il ne m'a jamais répondu. Après, le Festival de cinéma de Paris m'a fait un hommage rétrospectif. Je l'ai invité, il n'a pas répondu, pas montré rien, même pas un doigt. Après aussi, l'ambassade d'Espagne, à Paris, je l'ai invité non plus. Et 25 ans après, figurez-vous, il m'appelle et il m'a écrit cette gracieuse, voilà, regarde, on écoute.
Qu'est-ce qu'on écoute là, alors?
Cette chanson, cette musique de Théorème.
D'Archimède, ouais.
Archimède. Même quand j'avais oublié les films, la musique revenait à moi.
On l'écoute.
Je me l'ai rappelé, c'est drôle, hein.
On l'écoute.
C'était comme ce film toujours connecté.
Connecté,
à cette film.
C'était le son que vous aviez choisi et qui vous a marqué.
Ouais.
Vous, quand est-ce que vous avez arrêté de chanter alors?
J'ai jamais arrêté de chanter.
Vous continuez à vous produire?
Si, c'est vrai que mes projets perso, ils sont là, ils s'accumulent, mais je les accouche dès que je peux. Mais toujours, j'étais en rapport avec la musique, toujours. Et j'ai fait beaucoup de collabos avec beaucoup de musiciens. toujours ici en France aussi avec Dionysios, Mathias, avec en Espagne avec beaucoup de chanteurs aussi, même des Africains. Alors toujours je suis très la musique pour moi c'est le grand art, la poésie aussi que ça vient, c'est tout ce qu'on fait après c'est poétique, et c'est le premier amour. Mais j'ai toujours continué à composer. Je ne pourrais pas vivre sans musique dans ma vie, ça serait.
Émile Chaudet.
En Graziella, Rossi de Palma, ce qui est intéressant, c'est qu'on se voit se profiler un autre cinéma. C'est une journée particulière d'Ettore Scola, que le film préféré d'Antoine, oui, interprété par Denis Lavant dans le film. Un film avec Sofia Loren, une marginale.
Marcello.
Qui aime un homme homosexuel, aussi, lui aussi marginalisé dans ce film, Marcello Mastroianni. Est-ce que vous avez dû revoir ce film pour jouer dans Graziella?
Non, je ne l'ai pas revu. Je savais que Mehdi allait mettre des scènes, il avait parlé de ces scènes, mais...
Comment il vous en avait parlé?
Il m'avait parlé de la scène où je mets de la linge.
Le linge sur la terrasse.
Voilà, sur la terrasse, que c'était la scène comme Sofia. Mais je me rappelais très bien de ce film. C'est un film que j'ai... j'ai bien aimé à l'époque, hein. C'est comme Mamma Roma ou tous ces films que j'ai beaucoup aimé. Alors, non, je ne l'ai pas revu. Mais c'est vrai que vous avez dit que c'est le premier rôle dramatique, mais ce n'est pas exact.
Non, j'ai dit un premier rôle dramatique. Si. Parce que ce n'est pas votre premier rôle dramatique, en effet.
Non,
vous
non,
en
non,
c'est
pas.
Mais c'est le premier rôle.
J'ai eu avec Joaquin Jordan encore dans les bois, et que c'est très intéressant, un peu pervers. Et aussi, j'ai eu avec Karine Dridi, mm-hmm, Hors jeu, c'était un film qui malheureusement s'est sorti à l'époque des mondiaux de football en France. Et ça. Ouais, mais que pas... c'était très intéressant parce qu'on n'avait pas les droits de lire les scénarios. Et c'était tout chronologique comme dans la vie. On est arrivé et on devait voir qu'est-ce que ça arrivait dans nos jours. Et que j'ai eu la chance avec ce rôle de gagner le prix interprétation de Locarno dans le festival de Locarno, le prix féminin d'interprétation que ça m'a...
Graziella est une femme de ménage dans un pensionnat. Alors c'est un rôle qui vous poursuit parce que être femme de ménage, c'est quelque chose que vous avez vraiment dans votre parcours.
Ah, oui,
chez Patrice
vraiment,
Lecomte dernièrement, chez Almodovar bien sûr.
Oui.
Et vous dites dans le journal El Mundo, je suis très ouvrière et j'aime l'être. Qu'est-ce que ces rôles disent de vous en fait, Rossi de Palma?
Non, je veux dire si mon, moi j'y crois beaucoup à la destinée. En fait, je n'aime pas forcer les choses. Alors, j'aime bien quand quelque chose se présente. Et c'est pas que je suis humble, mais si c'est ça que je dois faire et c'est ça, pourquoi pas? Alors, pour moi, une femme de ménage.
Il n'y a pas eu que ça, mais il y en a,
moi,
pas
y
mal,
y a
hein,
encore deux femmes de ménage qui m'attendent. Attendez, hein.
C'est
pas
possible.
Fini encore, hein.
Vous allez finir par nettoyer tout le cinéma, c'est pas possible.
Ouais, je laisse tout.
Dans le prochain film d'Almodovar, vous êtes encore une femme de ménage, non?
Presque. C'est pas une femme de ménage, c'est plus une ama de llaves, comment on peut dire ça? Une gardienne, pas une gardienne.
Une concierge.
Non, pas une concierge, parce qu'elle habite dans cette...
Elle gouvernante.
Elle prend soin de ses maisons, fait les courses, elle nettoie, mais plus, c'est un peu maman.
Une gouvernante.
C'est une espèce de gouvernante, mais pas saine. C'est plus c'est ce côté que on n'appelle pas des femmes de ménage à cette personne parce que ça fait partie un peu de la famille et tout ça. Ils en étaient toujours là, mais en même temps c'est elle qui fait les ménages. Alors,
Isabelle Fréchard, vous dans votre parcours d'actrice, est-ce qu'il y a eu des rôles comme ça qui sont revenus de façon récurrente, ou est-ce qu'on vous a distribué quand même dans des rôles très différents?
Non, il y a pas. Non, c'était à chaque fois très différent. Non, j'ai pas été poursuivie par un métier comme ça. Non.
Émilie.
Comment est-ce que vous avez construit votre pseudonyme Rossi de Palma? Est-ce que ça vient du premier rôle que vous avez joué chez Almodovar, l'animatrice de télévision Rosie?
Non, là, il m'appelait d'une autre façon. C'est très drôle, ça. Parce que je savais que je voulais un nom artistique, je voulais pas mon nom civil. Je voulais cette différent. Et après, comme j'avais pas une idée, je savais pas, je trouvais pas Pedro, qu'il est très très fort en inventer des noms. Et parfois il invente Evasive, que c'est très joli en ce cas-là, mais c'est lui qui l'a trouvé pour moi, j'ai pas aimé. Mais comme j'ai pas osé aller dire, parce que j'ai dit, il va être fâché, alors j'ai dit, ok, comme j'avais pas d'alternative, ok, mais c'était Rossi Vondona, c'est comme Vontis. Mais les vents, vous savez que c'était Rossi Vondona, c'est pas moche,
non.
Donna, c'est femme,
ouais.
Mais les vents, vous savez que ça transforme en fond. En allemand, c'est fond. Aussi fondona. Et fondona, à l'époque, il était mince comme un liège. Mais fondona, ça veut dire quand tu es un peu entré en chair, non? Et alors, j'ai dit, oh, fondona, fondona. Et alors, après, j'ai fait des photos avec un maître de la photographie comme c'est Alberto García Lis pour un créateur de mode à l'époque, très, très doué, qui est mort, c'est le premier qui est mort de sida, Manuel Pigna. Et on a fait des photos extraordinaires. Et Manuel m'a offert une originale, il m'a écrit derrière, Rosa, Rosa de Palma. Parce que je suis né à Palma de Mallorca.
Ben oui.
Lui, c'est un manchego aussi, comme Pedro, il était un manchego, c'est créateur. J'ai dit, mais ça, c'est joli. Et après, quand ma grand-mère de Rosa m'avait mis Rossi, j'ai dit, mais Rossi de Palma, c'est très cohérent en plus. On peut dire que c'est... Et elle, a dit à Pedro, écoute, pour femme au bord de la crise des nerfs, j'ai dit, écoute, j'ai changé ça de Bondona pour Rossi de Palma. Ah bon? Mais ne le change plus, hein. Heureusement, parce que j'écoutais tellement de fois Rossi de Palma, ça ne me gêne pas, mais si j'aurais écouté Vondona, Vondona, j'aurais tué calme.
On est à quelques jours de la fermeture, de la clôture du Festival de Cannes. Vous étiez membre du jury,
ah oui,
on vous a vu.
Quel honneur, quel privilège.
Qu'en avez-vous pensé du résultat? Je crois que les Italiens vous poursuivent parce que personne n'a été récompensé.
Les Italiens ne sont pas très contents, mais comme je l'ai dit, ce n'était pas un match de football, ça. Écoutez, nous on a pas pensé à ça. Même on entendait, attention, il y a trop de Français, on a fait comme si on n'a rien entendu. Parce qu'on est là, on était des Américains, des Anglais, des Français, tout le monde mélangé. Alors, un jury, c'est ça, il faut... l'univers du cinéma, il n'y a pas de frontières. Hein, il faut... Mais c'est vrai que je comprends la déception aussi
des Italiens.
Des Italiens, dans ces cas-là, ou des autres qui n'ont pas eu non plus rien. Ils ne savent pas qu'il n'y avait pas que des Italiens.
Vous, quel est le cinéma qui vous a fondé, qui vous a construit? Quel est le cinéma que vous regardiez quand vous étiez adolescente?
Ah mais adolescente, plus un peu avant d'adolescente, c'était les cinémas des les Pâques, là, les Moïsès, tous les trucs, les Ben-Hur, tous ces trucs-là, j'adorais tout ça quand j'étais plus petite qu'ado. Mais après, je sais pas, il y a beaucoup, je suis très amalgamée en goût.
Il y avait des actrices qui fonctionnaient comme référence, qui ont pu fonctionner comme référence.
Oui, Anna Magnani. Ça toujours m'a beaucoup bouleversée. Et après, j'ai eu la chance de... Tout au début, après de travailler Pedro, j'ai travaillé dans beaucoup de films italiens, très mauvais parfois, les films, mais que je me suis amusée comme un folle et que j'ai appris l'italien. Et j'ai connu beaucoup de gens, déjà, qui avaient devenu un peu en crise après les grands cinémas italiens, mais qui sont connus, les grands stars, ou des chefs de photo qui sont travaillés avec des grands, des anecdotes incroyables que j'ai appris. Et que, et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup les cinémas italiens aussi. Et beaucoup de mal, je suis très mélangée, en goût et en préférence cinématographique comme dans la musique. Je suis assez large en goût.
Le rendez-vous.
Mon père a pris rendez-vous pour se faire appareiller, car il est fatigué de ne pas comprendre dans ses réunions ces gens qui n'articulent pas. Je lui ai demandé plusieurs fois quelles sont les fréquences qu'il entend le moins pour comparer nos courbes. Mais il ne veut pas qu'on compare nos courbes, chacun sa courbe. Il dit qu'il s'appareille pour comprendre ceux qui articulent mal. Et que si tout le monde parlait distinctement comme l'audioprothésiste, il n'en aurait pas besoin. C'est à cause du brouhaha, papa. Ce sont les autres. N'aie pas peur, papa. Ça ira, papa.
Plateau Son et Lumière avec vous, Isabelle Fruchard, auteure de pièces de théâtre, comédienne et même magicienne mentale. On va y revenir, j'ai absolument besoin de savoir ce que c'est. Demain, vous serez seule en scène dans Journal de ma nouvelle oreille au Théâtre du Rond-Point à Paris. Un spectacle mis en scène par Zabou Bretman que vous tournez depuis Avignon 2013, partout en France. L'histoire, en trois mots, c'est la vôtre en fait, celle d'une femme, donc vous, à qui l'on a diagnostiqué à 26 ans une perte de l'audition de 70% et qui, un peu plus de 10 ans plus tard, et une carrière déjà dans le spectacle vivant, va décider, donc à l'âge de 37 ans, de se faire appareiller de façon numérique. Vous redécouvrez alors votre propre voix et celle des autres. Une fois appareillé, quel a été le premier son que vous avez réentendu, ou du moins le son qui vous aura le plus marqué à ce moment-là?
Le premier, c'était ma voix. C'était ma voix, puisque je l'entendais tout d'un coup à travers des micros. C'est le premier son que j'ai produit. Et là, tout d'un coup, j'entendais ma voix en permanence, comme là. Imaginez, vous passez votre vie avec les écouteurs. Et vous dites, c'est ça votre vie maintenant. Alors ça, c'était très troublant. Et puis après, c'est tous les petits bruits. L'eau qui tombe sur les assiettes quand je fais la vaisselle. Ou si je fais la vaisselle tout de suite, dès que je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais je voudrais faire quelque chose. Un bruit nouveau. Qu'est-ce que je peux faire? La vaisselle est sale, c'est génial. Je vais faire la vaisselle. Et là, l'eau coule. Et tout d'un coup, je redécouvre. En fait, j'ai perdu les oreilles à 14 ans.
À 14 ans. À 26 ans, vous avez
diagnostiqué qu'à 26 ans.
Mais à 14 ans, en effet, vous avez perdu
les oreilles. Voilà, donc ça faisait plus de 20 ans.
Et de façon complètement... du jour au lendemain.
Voilà, du jour au lendemain, j'ai eu une sinusite. Donc, vous savez, vous avez la tête dans du coton, vous entendez mal. Et sauf que moi, je suis restée comme ça. Je suis toujours restée comme si j'avais les doigts dans les oreilles, quoi. Et donc, j'ai redécouvert tous ces petits bruits, finalement, ces toutes petites choses du quotidien... des choses très banales qui prenaient des dimensions extraordinaires pour moi. Quoi.
Et le point de départ de cette pièce, c'était l'envie de faire quelque chose de radiophonique, notamment pour France Culture. Qu'est-ce qui vous pousse alors dans cette direction? Quelle forme prenait ce texte pour la radio au départ?
Mais parce qu'en fait, au cours de mon appareillage, j'ai redécouvert la radio. Parce qu'avant, j'écoutais de la musique, mais ça me demandait extrêmement beaucoup de concentration de comprendre la radio. Donc ça me fatiguait. Et là, j'avais plus besoin de faire aucun effort, je comprenais la radio. Donc je me suis mise à écouter la radio. Je me suis dit, mais j'adore la radio, je veux faire de la radio. Alors je suis allée à des rencontres avec France Culture, etc., et sur les fictions radiophoniques, des festivals, j'en écoutais. Puis en écoutant des réalisateurs de parler, je me suis dit, mais eux, ils ont une écoute particulière. Et ça pourrait peut-être les intéresser, en fait. Tout d'un coup, j'ai eu l'idée comme ça, mon texte. Alors, j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, envoyez-moi ce que vous faites. Oui, mais c'était mon journal intime, je pouvais pas lui envoyer mon journal intime tel quel. Donc, j'ai adapté, j'ai tiré un fil. Et puis, avant de...
De l'envoyer,
j'ai fait une lecture chez moi. Voilà.
Et devant des amis.
Devant des amis, voilà, qui s'intéressaient à la radio pour avoir des retours. Tout le monde m'a dit, c'est un spectacle. Mais attends, il faut que tu fasses un spectacle avec ça. Moi, j'ai dit n'importe quoi. C'est hyper prétentieux, quoi, de monter sur scène, raconter mon histoire. Moi, j'aurais jamais eu cette idée-là. Quand même, j'y avais pas pensé, honnêtement. Mais quand même, je me suis dit, je note. Mais bon. Voilà. Et puis, il y avait une amie de Zabou Bretman qui était là.
Et l'aventure a commencé.
Elle lui en a parlé. Et puis, Zabou Bretman m'a appelé. Et puis, voilà.
Quand vous faisiez du théâtre sans votre appareil, vers l'âge de 26 ans, comment vous travailliez avec les metteurs en scène et avec les autres comédiens? Parce que vous expliquiez, j'ai pu lire dans des entretiens, que parfois c'était des véritables quiproquos, vous faisiez absolument n'importe quoi, tout le contraire de ce qu'ils préconisaient. Mmh. Comment vous arriviez à travailler avec eux, Isabelle Fruchard? Parce que vous n'entendiez pas, en fait.
J'aimerais leur poser la question aujourd'hui en direct à l'antenne, comment ils faisaient pour travailler avec moi?
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait?
Ça dépendait du type de relation que j'avais avec eux. Si c'est des gens que je connaissais pas, ou bien si j'étais en confiance ou pas. En fait, j'ai compris au bout d'un moment que c'était dans mon intérêt de dire que j'avais un problème. Parce que le problème, c'est que j'étais pas diagnostiquée, donc je croyais que c'était psychologique, que c'était de ma faute, que j'étais pas assez attentive. Et j'étais hyper concentrée, mais quand j'étais sur scène et que le metteur en scène était dans le noir, j'avais beau être hyper concentrée, je comprenais pas ce qu'il me disait. Donc, j'étais obligée quand même de lui dire j'ai un problème. Je sais pas exactement ce que j'ai comme problème, mais j'ai un problème. Et c'était dans mon intérêt, parce que sinon, je passais pour une folle, quoi.
Et vous êtes allée beaucoup plus loin encore dans cette histoire presque de noir, puisque vous parlez des metteurs en scène dans le noir, avec la magie mentale, Benoît.
Oui, parce que vous faites tout un travail où vous bandez les yeux. C'est ça la magie mentale, c'est quoi? Vous bandez les yeux et vous imaginez.
Oui. Et à quel moment de votre parcours ça arrive?
Ça dépend. Vous avez plusieurs formes de numéros, mais là, celui-là, ça arrive. J'ai à peu près 30 ans et je rencontre un magicien qui me dit voilà, je cherche une partenaire, enfin pour remplacer la partenaire que j'ai. Est-ce que tu voudrais faire ce numéro avec moi? Moi, je connais. C'est pas du tout la magie mentale, je savais pas ce que c'était. Je suis curieuse, j'ai envie d'apprendre, je lui dis oui.
Vous aviez fait un DEA ou une thèse sur Claudel, donc on était très loin de la magie mentale.
On était, mais pas si loin que ça.
Alors
mais
on y
non,
va, ouais.
Pas si loin que ça. L'invisible, justement, le monde invisible, Claudel, c'est ça. Et donc, je me retrouve à devoir travailler les yeux bandés. Or, il n'y a pas de plus grande terreur pour moi que d'avoir les yeux bandés. C'est-à-dire que la magie mentale demande une technique. J'ai fait un an et demi de technique avant d'y arriver, ça, beaucoup de travail. Mais moi, mon stress, il n'était pas dans la technique, il n'était pas dans le travail que je faisais. Mon stress, c'était simplement dans le fait que j'avais les yeux bandés. Et il n'y a pas de plus grand stress pour moi, même dans un spectacle de magie, de cabaret, où je suis en direct avec les gens, et où je dois demander quelque chose en direct à quelqu'un. Même pas les yeux bandés, hein. Comme ça, ne serait-ce que son prénom. Il n'y a pas de plus grand vertige pour moi, parce que j'ai la terreur de ne pas comprendre ce qu'il va me dire, alors qu'il va juste me dire « je m'appelle Georges ». Mais Voilà, pour moi, ça a toujours été le vertige absolu.
Vous avez fait du cabaret ?
Oui, oui.
C'était Palma ?
Si, si, si.
Quel genre de numéro ?
Oh, j'ai fait, j'étais maîtresse de cérémonie.
Ouais.
Et j'ai chanté, j'ai fait ça avec des plumes, avec tous les les paillettes, tout ce qui va avec les cabarets. J'adore les cabarets.
La magie mentale, jamais ?
La magie mentale, il comprend. J'ai vu faire des gens qui devinent tes pensées. C'est un peu
ouais,
ça, non
ça, ouais.
La lecture de tes pensées, c'est assez. Je ne l'ai pas fait, mais c'est assez intéressant, c'est vrai. C'est vrai que ça fait un peu des possibilités, des probabilités, non ? Et simplement une espèce de télépathie. J'adore la télépathie.
Isabelle mais Fouchard,
c'est fascinant tout ce qu'ils avaient raconté. Moi, je suis bouche bée. Hein. C'est très intéressant, vraiment. Hein.
Est-ce que le fait de découvrir votre propre voix, ça a changé quelque chose dans la façon de jouer plus tard, Isabelle Fouchard ?
Alors, moi, ce que je crois, c'est que ça a modifié quelque chose dans ma relation à moi-même. Parce que j'étais là, les autres étaient là, l'univers était là autour de moi, j'étais pas obligée d'être tendue, tout était à portée de main, d'oreille, et donc...
Mais c'était quelque chose de physiologique, vraiment, ce qui est arrivé.
Oui, il y a les cellules qui ont disparu, rien à faire.
C'était pas ta faute, c'était pas quelque chose
de
psychosomatique que tu avais
mais
provoqué
non,
en toi.
Mais non, j'ai cru pendant 14 ans que j'avais un problème psychosomatique.
C'est hallucinant, parce qu'il y a un truc que j'ai découvert... pour mon fils qui a la dyslexie, j'ai découvert une méthode, les tomatis, que vous devez connaître.
Ah bah, j'en parle dans le spectacle, oui.
Voilà, c'est drôle. Et après, cette machine qui on
oui
pour les exercices for the brain, qui s'appelle, que c'est hallucinant parce qu'il ne connaissait rien, sauf à tes sauces et la réverbération de ta voix, tout la coûte à travers tes sauces. Il y a appris, à cause de ça, un truc hallucinant, que c'est la voix des mamans quand les bébés, il est dans les ventres, il n'écoute pas à travers la réverbération intérieure de la maman, sinon à travers les os pelviques de la maman. C'est les écouteurs, on va dire. C'est hallucinant, ça.
Ouais,
à travers les os.
C'est comme ça. Ouais, ouais.
Isabelle Fouchard, pourquoi vous évoquez cette technique
hein, parce que moi, j'ai tout fait. J'ai tout essayé comme méthode. Comme j'avais un problème bizarre, donc il fallait que j'essaye. Donc, j'ai fait toutes les thérapies possibles, et notamment Tomatis. Et bon, j'en dis pas plus parce que j'en parle beaucoup dans le spectacle de Tomatis. Et donc, voilà.
Il fallait aller voir. Mais en tout cas, c'est un truc, c'est incroyable, vraiment. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est incroyable.
Isabelle Fouchard, votre principal partenaire sur la scène, c'est la bande-son. Mmh. Comment vous avez travaillé justement ? Comment vous l'avez élaborée ?
Alors ça, c'est Zabou. C'est une idée de Zabou de faire écouter le public à travers mes oreilles. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec Laurie Chanty, qui a créé la bande-son. Je lui ai prêté mes écouteurs, mes appareils, et avec le stéthoscope de mon audioprothésiste, donc qui permet d'écouter à travers mes appareils. Et donc, il est allé dans plein de situations dont je parle dans le spectacle, des concerts, les bruits de la rue, les voix, etc. Il a écouté à travers mes appareils, de manière à reproduire après, dans la bande-son, ce que j'entends. Et donc, on partage comme ça, je partage ça avec les gens. Concrètement, ils entendent ce que j'entends. Et puis, y a plein de moments musicaux, de moments de ce que je vis, en fait, dans mon quotidien. Donc, dans mon quotidien d'artiste aussi, sur scène, avec la magie, avec la musique aussi. Moi aussi, je fais de la musique. Et y a tout ça sur scène.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé un son, ça tombait bien, le sujet. Et voici ce que vous nous avez apporté, Isabelle Fouchard.
Ça m'assomme d'écrire ça en plus. Oui. Ça me donne beaucoup de peine. Oui. Parce que c'est très dur. C'est très dur. Parce qu'il faut que ça soit fait très finement. Et très délicatement. Avec beaucoup de raffinement. Et je suis un être essentiellement raffiné. Ça tombe bien. Parce que vous savez, ça fait 80 000 pages à la main. Pour faire 800 pages imprimées qui ont l'air pareil d'être effacées. Ben oui, évidemment que le travail est effacé. On ne le voit pas. De toute façon, le lecteur, il n'est pas supposé voir le travail. Lui, le lecteur, lui, c'est un passager, le lecteur. Lui, il a payé sa place. Il a acheté son livre, il a payé sa place. Il ne s'occupe pas de savoir ce qui se passe dans les soutes. Il ne s'occupe pas de savoir ce qui se passe sur le pont, lui. Il ne s'occupe pas comment on conduit le navire. Lui, ce qu'il veut, c'est jouir. La délectation. Bon, alors il a le livre. Il doit se délecter. Mon devoir à moi est de le faire se délecter, n'est-ce pas ? C'est à ça que je m'emploie.
Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Isabelle Fréchard.
La quoi ? Pardon, c'est
pas. Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi. Quand je mange mes mots, c'est pas possible.
Non, mais j'avais compris, mais j'avais pas compris au sens où j'avais pas compris le sens, quoi.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Ça va.
Mais j'ai choisi parce que.
C'est qui ?
Alors, c'est Céline qui parle. Mais en fait, c'est pas Céline. C'est Marc-Henri Lamande qui a fait un spectacle à partir de des entretiens radiophoniques de Céline des années 50 et dont le texte a été retranscrit mot pour mot, virgule par virgule, avec toutes les hésitations. Il a appris le texte tel quel et donc il incarne Céline, mais c'est extraordinaire, j'ai vu ça. C'est absolument époustouflant parce que voilà, il est complètement Céline et qui plus est un Céline qui me raconte des choses moi qui me parle complètement quoi. Et ben là, le travail, forcément, quand on est en période de jeu, on s'interroge beaucoup sur le travail. Quand on est en période de tournage, quand on est en train de travailler, on est obligé d'avoir une réflexion sur le travail. Et ce qu'il dit du travail qui ne doit pas se voir, et de, ben, on est tous confrontés à ça quand on est artiste. On a tous des choses tangibles à faire, mais après, c'est vrai que dans le domaine du spectacle vivant, c'est tous les soirs que je dois recommencer. Et tous les soirs, je dois faire ce travail invisible. Et voilà, et la question, elle est là, c'est tout le temps réamorcée.
Benoît.
Oui, pendant vos études, vous avez signé un mémoire de DEA sur Paul Claudel, on l'évoquait tout à l'heure. Quel était le sujet de ce mémoire ?
Bon, alors, le titre est un peu ridicule aujourd'hui.
Toujours, pour les DEA, allez-y.
Alors, ça s'appelait Claudel, Violaine et le spasme prophétique.
C'est pas mal.
C'était parce que j'avais un directeur de thèse un peu barré qui considérait le corps textuel comme simulacre de corps sexuel avec le lecteur pénétrant et le texte pénétré. Et franchement, quand vous avez 20 ans, enfin moi ça m'éclatait. Hein.
Ah bah je peux imaginer, tu parles.
Alors comme Claudel est extrêmement sensuel, parce que évidemment on le voit comme un rébarbatif, mais évidemment que c'est pas un rébarbatif, évidemment qu'il est ultra physique. Et du coup, ça collait très très bien avec Claudel. Donc, voilà, tous ces trucs prophétiques, c'est ce lien avec l'invisible, en fait, parce que j'ai fait très tôt le lien en raccordant les bouts après ma nécessité d'être avec le monde invisible, les choses qui s'inventent, qui se sentent, comment on écoute autrement qu'avec ses oreilles, ben voilà, c'est l'invisible et Claudel, il a fond là-dedans, quoi. Donc.
Le rendez-vous, la session.
Eh bien, on va finir en musique, Isabelle Fruchard et Rosé de Palma. On ne va pas vous faire chanter, on le regrette. Si on avait vraiment
prochaine
su...
Fois. La prochaine
sûr,
fois. Ouais.
Très bien. Ouais. Elsa Béranger.
Oui, alors ce soir, Fyodor Dream Dog, une programmation de notre réalisateur Thomas Beau. Alors Fyodor Dream Dog, c'est le projet original d'une musicienne parisienne. Avant tout, batteuse, elle est passée par de nombreuses collaborations, à la fois musicales, dansantes et même théâtrales. Pour son troisième album, Best, un album autoproduit avec la complicité de Lagos Productions, Fyodor Dream Dog enregistre 10 titres en 7 jours. Le résultat, un mélange de sonorités électro et acoustique qui donne une pop à la fois envoûtante et dansante. Ce soir, Fyodor Dream Dog prend la guitare pour chanter Sin from the Future. Elle est accompagnée de Catel à la basse et au clavier, Franck Vaillant à la batterie et Jean-Baptiste Julien au synthé. Fyodor Dream Dog, c'est à vous.
Day of the rock, I remember the day of the rock, cheeks and hands under rain of frost. So from the future, a brilliant version of fear. Seen from the future, a perfect stem. Seen from the future, every hole, every breach in the rocks.
Dave the Rock. Every tone, every language, the rock. Some from the future, a brilliant version of fear. Seen from the future, a perfect stand. Seen from the future, a brilliant version of fear. Seen from the future.
Titre du nouvel album Best de Fyodor Dreamdog. L'album est disponible sous le label Lagos Productions et vous serez en concert le 3 juillet à la Gaîté Lyrique et le 15 juillet à la plage de Glazart à Paris. Toutes les autres dates sont à consulter sur le site de l'émission.
Une dernière question, Cité Palma. Je sais qu'il y a quelque temps, Nicolas Sarkozy était encore au pouvoir et vous lui aviez envoyé une lettre où vous l'aviez contacté pour qu'il interdise la corrida aux moins de 16 ans. Vous, Espagnol, pourquoi vous aviez fait ce geste-là ?
Non, l'association qui s'occupait de ça m'a demandé s'il était d'accord, et bien sûr, il les a soutenus. Moi, c'est vrai que la corrida, comment dire, moi, j'étais une fois ou deux les taureaux quand j'étais très jeune, et j'ai beaucoup souffert, je me sentais comme les romains en train de voir les chrétiens se faire manger pour les lions. Je sais pas, je trouve que la beauté, il y a des prix, il y a des prix qui sont très chers, et la beauté de la fête des taureaux, pour moi, c'est un prix trop cher parce qu'on décide pour un animal quelque chose qu'il n'a pas décidé, quoi.
Elle en est où, cette requête, aujourd'hui ?
Mais je ne sais pas, en fait, parce que je ne sais pas s'ils sont arrivés. Il faudrait que je me renseigne aussi. Hein. Parce que ça, c'était pour la France. Même, je soutiens aussi beaucoup des associations anti-taureaux en Espagne, anti les toreros et tout ça, mais je ne sais pas où s'est passé ça. Je crois qu'ils ne sont pas arrivés à avoir la classification. Mais vous savez, comme en Espagne, il y a pas seulement les corridas officielles, il y a beaucoup de fêtes qui sont basées. Le toro embolao qui met des feux dans les cornes, beaucoup de choses qui se passent autour de cet animal et que c'est très ingrat et très, 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 très dur pour les gens qui aiment les animaux, quoi, et qu'on ne croit pas qu'on a décidé à leur place.
Claudel, Violaine et le spasme prophétique.
Mais c'est assez intéressant, c'est vrai. C'est vrai que ça fait un peu des possibilités, des probabilités, non? Ou simplement une espèce de télépathie. J'adore la télépathie. Non?
Moi aussi. Merci à nos invités. Rossi de Palma, Graziella, c'est à partir de demain au cinéma. Isabelle Fruchard nous a quittés parce qu'elle doit vite faire sa générale publique. Journal Magnifique. De ma nouvelle oreille, c'est au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 4 juillet. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Bravo.
C'est vendredi que s'ouvre un des festivals les plus courus dans le domaine des nouvelles technologies, le South by Southwest. C'est à Austin, au Texas. Un grand happening auquel se rendra notre collaborateur. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir, Claudine.
Demain, une émission Femme puissante avec la journaliste et écrivaine Claudine Bourbonnais que l'on vient d'entendre, avec à ses côtés l'éditrice Teresa Crémisi. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Émilie Chaudet, Benoît Lagan et Aïssatou Ndoye et Elsa Béranger, journal de la culture Zoé Sfez, à la prise de fond de son de Phare Guéride et Jacques Hubert et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h54, vous êtes sur France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la comédie
française.
Alors bonne soirée à tous et à demain.
Au revoir.